Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Le pape a dénoncé en termes forts le fétichisme de l'argent et la dictature d'une économie sans visage. Dans un discours à de nouveaux accrédités près le Saint-Siège, François a évoqué les conséquences funestes de la précarité quotidienne de nombreux hommes. L'Église catholique de Belgique a publié son rapport sur les 10 points de contact mis en place pour les victimes d'abus sexuels commis par des prêtres lorsqu'elles étaient mineures. 307 plaintes ont été recueillies en 2012, dont 90 ont débouché sur des indemnisations. Nous partirons en Éthiopie dans ce magazine à la rencontre de la mission Saint-Marie dans la ville de Wukro. Nous entendrons le père missionnaire Olaran nous parler de ses projets de développement. L'ONU, déterminée à ramener le calme en République centrafricaine, le Conseil de sécurité devrait imposer des sanctions ciblées aux groupes armés qui sèment le chaos et violent les droits de l'homme. Le jésuite Jean-Luc Ragoneau nous parlera du climat d'insécurité qui règne dans le pays. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. L'argent doit servir et non pas gouverner. Le pape a tenu un discours très ferme devant les ambassadeurs du Kirghizistan, d'Antigua et Barbuda, du Grand-Duché de Luxembourg et du Botswana. François a reçu vers 11h ce jeudi dans la salle Clémentine les nouveaux accrédités près le Saint-Siège venus lui présenter leur lettre de créance. Le pape leur a demandé d'être les promoteurs d'une société plus éthique, tout en condamnant la spéculation financière et la soif d'argent sans limite. Bernard de Cotigny.
Accepter l'empire de l'argent sur les êtres et sur les sociétés est tout simplement intolérable. C'est en substance ce qu'a voulu expliquer le pape dans son discours. Les mots du souverain pontife n'ont jamais été aussi durs envers l'adoration de l'argent et ses conséquences tragiques. Précarité quotidienne, peur et désespérance même dans les pays riches, joie de vivre qui s'amenuise, indécence et violence qui prennent de l'ampleur et pauvreté aussi toujours plus criante. Pire encore, l'être humain est considéré aujourd'hui comme étant lui-même un bien de consommation qu'on peut utiliser et jeter. Le fétichisme de l'argent et la dictature de l'économie sans visage, ni but vraiment humain, nous fait oublier le primat de l'homme, rappelle le pape. Dans un tel contexte, la solidarité qui est le trésor du pauvre est souvent considérée comme contre-productive, contraire à la rationalité financière et économique. L'écart entre riches et pauvres ne fait que s'accroître. S'installe alors une nouvelle tyrannie invisible qui impose ses lois et ses règles. La corruption tentaculaire et l'évasion fiscale égoïste prennent des dimensions mondiales. La volonté de puissance et de possession est sans limite, dénonce le pape. Derrière cette attitude se cache le refus de l'éthique, le refus de Dieu. L'éthique dérange, selon François, car elle conduit vers Dieu et relativise l'argent et le pouvoir. En effet, Dieu est considéré par les financiers, économistes et politiques comme dangereux puisqu'il appelle l'homme à sa réalisation plénière et à l'indépendance des esclavages en tout genre. Une situation qu'il faut transformer. L'argent doit servir et non pas gouverner. Le pape appelle ainsi les pays à réaliser une réforme financière qui soit éthique et qui entraîne une réforme économique salutaire pour tous. Le pape aime tout le monde, les riches comme les pauvres. Mais le pape a le devoir, au nom du Christ, de rappeler aux riches qu'il doit aider le pauvre, le respecter, le promouvoir. C'est un appel à la solidarité des intéressés.
Bernard de Cotigny. L'Église a un grand besoin de ferveur apostolique qui nous pousse en avant dans l'annonce de Jésus. C'est ce qu'a souligné jeudi matin le pape François durant la messe qu'on célébrait dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe avec le cardinal Peter Turkson et Mgr Mario Tozzo, respectivement président et secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, en présence d'un groupe de journalistes et employés de Radio Vatican. Le pape a par ailleurs mis en garde sur le fait d'être des chrétiens de salon sans le courage de déranger les choses trop tranquilles. Toute la vie de saint Paul aura été une bataille, une vie parsemée d'épreuves. Le pape François a centré son homélie sur l'apôtre des gentils qui, a-t-il dit, a passé une vie de persécution en persécution mais ne s'est jamais découragé. Le destin de saint Paul, a-t-il ajouté, est un destin avec tant de croix mais lui est allé de l'avant regardant vers le Seigneur. et à l'issue de la messe, le pape a prononcé un discours aux membres de la Caritas Internationalis présents également dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe ce jeudi. Une église sans charité, cela n'existe pas, a-t-il expliqué. Le pape a ainsi exprimé sa profonde gratitude à l'organisation, soulignant que le travail de la Caritas avait une double dimension. Une dimension d'abord sociale et une dimension mystique, c'est-à-dire celle qui existe dans le cœur du Christ. En prenant des exemples de situations de pauvreté et de guerre, le pape a rappelé qu'il existe des moments où il faut simplement neutraliser le mal. S'il y a une famine, il faut donner à manger. S'il y a des blessés, il faut les soigner. Et soigner, a expliqué François, c'est la caresse de la Mère Église. Mais pour faire cela, il faut de l'argent, a-t-il expliqué. Le pape a cité ainsi Saint Jean Chrysostome qui disait que l'Église pourrait être obligée de vendre ses biens afin de donner à manger aux pauvres. Un an après la mise en place de ces 10 points de contact, l'Église catholique de Belgique tire un premier bilan sur les victimes d'abus sexuels dans le cadre d'une relation pastorale. Il en ressort que 307 victimes, principalement des hommes mineurs au moment des faits, ont choisi de dénoncer par le biais de ces points de contact les abus subis. C'est ce que rapporte infocato.be, le site officiel de l'Église catholique belge. Dans 40% des cas, une compensation financière a été reconnue à la victime. Le compte-rendu d'Antonino Gallo.
Que demandent les victimes qui se sont adressées au point de contact? Les trois attentes les plus fréquentes sont la conciliation avec le responsable de l'instance à laquelle l'abuseur décédé appartenait au moment des faits, la rencontre avec le responsable de l'abuseur et la reconnaissance de l'état de victime sous forme d'un simple entretien. Peu de plaignants, seulement 3, ont souhaité rencontrer leur abuseur. Il est vrai que dans 82% des cas, celui-ci était soit déjà mort, soit très âgé ou bien encore les faits étaient difficiles à vérifier. Dans 40% des dossiers, une compensation financière a été reconnue à la victime. Ce n'est pas l'aspect principal de la guérison, mais cela fait partie d'un ensemble d'éléments qui contribuent à la reconnaissance de l'état de victime. Pour la plupart des 90 dossiers qui ont donné lieu à cette indemnité, la fourchette se situe entre 2500 et 10 000 euros, mais 9 cas ont entraîné une réparation entre 20 000 et 25 000 euros. C'est la fondation Dignity qui paye ces montants, à charge pour elle de récupérer les sommes auprès des diocèses ou des congrégations religieuses. A noter également que 26 dossiers ont été communiqués à la justice, les faits n'étant pas prescrits.
Antonino Gallofaro. Les évêques américains prennent position contre le clonage humain. L'épiscopat états-unien estime en effet que le fait d'avoir réussi à cloner des cellules souches embryonnaires humaines est au plus haut point inquiétant. Les évêques relèvent que même si cette méthode fait avancer la recherche scientifique, elle sera incontestablement reprise par ceux qui veulent cloner des enfants. Cette déclaration intervient après la tentative réussie de chercheurs américains de cloner des cellules de peau humaine. Indépendamment du but poursuivi, le clonage traite l'être humain comme un produit de consommation de masse au service de la volonté d'autres personnes. C'est ce qu'a expliqué le cardinal Sean O'Malley. Selon l'archevêque de Boston, cela contredit la responsabilité morale de traiter chaque membre de la famille humaine comme un cadeau unique de Dieu, comme une personne avec sa propre dignité. Les scientifiques ont démontré en effet pour la première fois avec leurs travaux dévoilés le 15 mai qu'il est possible de créer des cellules souches embryonnaires génétiquement identiques à la personne dont elles sont dérivées. Ces cellules sont particulièrement prometteuses, notamment pour traiter la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, des pathologies cardiaques et des blessures à la moelle épinière. Light you'll never find in another's face. See whose distance cannot be reached. Nous partons maintenant en Éthiopie, dans le Tigré éthiopien, une région aride et longtemps laissée pour compte durant la dictature communiste. La mission catholique Sainte Marie met en place depuis 20 ans plusieurs programmes de développement agricole dans la ville de Wukro. Emmy Elio est allé à la rencontre du père Angel Olaran, un missionnaire espagnol qui mène joyeusement l'œuvre sociale de l'Église, malgré toutefois de nombreuses difficultés. Reportage.
Comme chaque samedi après-midi, les collines qui bordent la petite ville éthiopienne de Wukru sont le théâtre d'un curieux remue-ménage. Des dizaines d'enfants armés d'arrosoirs s'activent. Les uns vont chercher de l'eau, puis les autres se bousculent. Tous veulent avoir le privilège d'abreuver les jeunes arbres qui ont été plantés par leurs aînés il y a quelques années. À la tête de cette armada de jardiniers en herbe, le père Angelo Laran, ou Abba Melaku comme on le surnomme ici. Le prêtre espagnol qui a fondé la mission catholique de Wukru il y a 20 ans a lancé ce grand projet de reforestation dans plusieurs endroits de la ville.
Le sol est brûlé, la montagne est brûlée. Pourtant, il pleut 2 mois par an ici, et beaucoup. On nous a dit qu'il y avait une forêt il y a une centaine d'années. Alors, pourquoi pas, essayons.
Son objectif, donner une seconde vie aux terres agricoles de la région, appauvries par l'absence d'arbres. À l'âge de 70 ans, Angel continue de faire du développement agricole sa priorité. La création d'un collège technique compte parmi ses plus belles réussites. En guise de cours d'école, un jardin immense, luxuriant. Ici, on est parvenu à faire pousser des fruits et légumes autrefois absents de cette région de l'Éthiopie, où il ne pleut que 2 mois par an. Il a pour cela fallu s'adapter et faire appel à des techniques agricoles méconnues ici, comme celle de la greffe.
Ici, on greffe principalement des orangers. On prend des racines de citronniers, car elles sont très fortes et adaptées à la région. Et après, on y greffe différentes variétés de pousses d'orangers. Ensuite, on donne les arbres aux fermiers qui peuvent ainsi diversifier leur production.
La mission Sainte Marie est aujourd'hui un des acteurs principaux de la ville en matière de développement, et ce, dans une région où moins d'1% de la population est catholique. Wukru, Emi Elio, Radio Vatican.
Un reportage signé Emi Elio et à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. La situation est toujours préoccupante en Centrafrique, aux mains de la coalition des rebelles du Séléka depuis le 24 mars dernier. Ce mercredi, l'émissaire spécial des Nations Unies pour le pays a dénoncé l'état d'anarchie dans lequel était plongé le pays depuis plusieurs mois et demandé que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des sanctions à l'encontre de Bangui. Malgré une force régionale de 700 hommes déployés dans le pays, les violences se poursuivent et les exactions commises par les milices sont monnaie courante. Selon l'ONU, la Centrafrique semble par ailleurs être devenue un repère pour des rébellions étrangères cherchant à exploiter les ressources naturelles du pays riche en diamants et en or. Nous avons joint à Bangui le père Jean-Luc Ragoneau, il est jésuite. Il revient sur le climat d'insécurité dans lequel est plongé le pays.
Il est clair qu'il faut bien distinguer 2 choses, Bangui et la province. C'est-à-dire qu'à Bangui, il y a un certain nombre de choses qui se font, qui sont positives, alors qu'en province, on s'aperçoit qu'il y a encore des exactions fortes et lourdes et difficiles pour les populations qui souffrent en province. À Bangui même, on a l'impression que la vie essaie de reprendre. De là à dire que la sécurité est rétablie, je n'y aventurerai pas. Mais il est vrai que le désarmement a commencé. Il y a des troupes de la FOMAC, de la police militaire Séléka et de l'armée française qui désarment des gens qui se promènent avec des armes isolées ou des voitures qui se promènent sans ordre de mission.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation économique et sociale qui, elle, n'a pas l'air brillante, c'est le moins qu'on l'on puisse dire.
Oui, oui. D'après ce que moi j'entends, beaucoup de gens souffrent d'un manque d'argent. Par exemple, hier à la radio, j'entendais que les retraités, ça faisait certains retraités, ça faisait 14 mois, donc bien avant la rébellion, hein, donc déjà sous régime Bozizé, 14 mois qu'ils n'avaient pas touché leur pension. On entend dire aussi que les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis 3 mois. Et puis, tout bêtement, ceux qui sont un peu les forces vives et de l'ordre actuellement disent bah, « Nous, on a collaboré à quelque chose pour l'État sud-africain, on aimerait bien être payé. » Donc, il y a des gros problèmes d'argent, gros problèmes qui font que la vie coûte de plus en plus cher à Bangui et ailleurs. Et comme Bangui en plus, comme la Centrafrique est un pays enclavé toutes les ressources vivrières sont cultivées et viennent de la province jusqu'à la capitale, soit viennent de l'extérieur par le port de Douala, etc. Et donc, il y a des gros problèmes de transport parce qu'il y a des barrières auxquelles il faut payer, etc.
Est-ce que la population centrafricaine fait confiance aux hommes du Séléka? On sait que le pouvoir a changé, il a été renversé. Quel est le lien aujourd'hui entre la population centrafricaine et la rébellion?
Est-ce qu'il y a une grande confiance? Je ne suis pas sûr. Mais il y a des petits gestes qui montrent que petit à petit, on sent de la part des autorités en place le désir et la volonté de se faire reconnaître et accepter par les populations locales. Par exemple, vous avez des groupes d'intervention rapide qui vont intervenir quand il y a des difficultés. Et ça peut créer un climat positif. Il est vrai qu'il faut reconnaître que beaucoup des gens ont été victimes d'exactions graves, parfois très graves. Et donc, quand ils voient un uniforme, c'est les cas, sont des défauts, ils ne savent pas. Et du coup, ça crée une tension. Et ce qui me semble très positif, dès qu'il y a des mouvements de cet ordre qui se produisent dans les quartiers, on entend ce que j'appelle un concert de casseroles et de sifflets. Et qu'il y a une sécurité interne qui s'est mise en place, qui fait réagir la population. Alors parfois, il y a des exactions lourdes, la justice expéditive. Et sinon, on voit arriver la police militaire Séléka ou la FOMAC, ou les forces de l'ordre françaises, qui permettent d'établir un contact et qui font que petit à petit, il y a quelque chose de plus qui s'élabore. Mais attention, là moi je parle pour Bangui, la province souffre beaucoup, 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 beaucoup encore.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Le patriarche orthodoxe de Moscou s'est déclaré optimiste quant à l'avenir de l'orthodoxie en Chine. Cyril était du 11 au 15 mai à Pékin, Shanghai et Harbin. C'est dans ces trois villes, il y a trois siècles, que s'est implantée la religion orthodoxe dans l'Empire du Milieu. Le patriarche russe a dit qu'il avait des plans pour améliorer la situation de l'Église orthodoxe chinoise dont il voit l'avenir lumineux et heureux. Suite aux entretiens qu'il a eus avec les responsables chinois, le patriarche de Moscou a constaté que la culture traditionnelle chinoise conservait de nombreuses valeurs propres à la culture chrétienne. Cela signifie qu'il y a un fondement moral commun, une base commune pour la vie et la coopération. Je suis certain, a-t-il dit, que si la Chine et la Russie préservent ce fondement, elles manifesteront leur puissance au monde entier, à ce monde où ces valeurs sont obscurcies. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican.